Le Dieu immortel et son Fils mortel. Melchizedek serait numéro 141. Le 31 juillet 2002. Pasteur Brian Kukurek. Qui est R.C.E. Melchizedek? E2.02.965-165 Je te prie ce soir, ô Dieu, de le faire encore juste une fois. Demain, il est prévu que nous allions à Tucson. Nous devons prêcher dans d'autres parties du monde et d'autres villes. Mais, Dieu bien-aimé, il y a peut-être des étrangers ici, ce soir, qui n'ont jamais, qui ont entendu prêcher des choses mais qui n'aimaient les ont jamais vu rendues manifestes. Comme je te l'ai demandé au commencement, lorsque ce disciple, Cléopas et son ami, venaient d'Emmaüs et marchaient sur la route, tu es sorti de derrière les buissons et tu as commencé à leur parler après la résurrection et à leur prêcher. Eh bien, il a dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, Néhémie, savez-vous pas que Christ devait souffrir ces choses et entrer dans sa gloire? Mais Néhémie le reconnurent pourtant pas. Durant tout le jour, ils marchèrent avec toi, sans pourtant te reconnaître. Comme la nuit tombait, ils te pressèrent d'entrer. Lorsqu'ils furent dans la petite auberge, et qu'ils eurent fermé les portes, tu fis alors quelque chose de semblable à ce que tu avais fait avant ta crucifixion, et ils reconnurent que c'était le Christ ressuscité. En quelques instants, tu étais derrière les rideaux et avais disparu. Ils coururent tout de suite dire aux disciples, le Seigneur est vraiment ressuscité. Père divin, je crois que tu es toujours vivant. Je sais que tu les ailles. Et tu nous l'as prouvé tant de fois. Pourrais-tu le faire encore juste une fois pour nous, Seigneur? Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, permets que cela arrive encore une fois. Je suis ton serviteur et ce sont ici tes serviteurs. Seigneur, tout ce que j'ai dit n'équivaudrait pas à juste un mot de ta part aurait plus de valeur que ce que j'ai dit durant ces 5 soirs, ou dans ces 5 messages. Juste un mot de toi apporterait davantage. Néhémie, veux-tu pas parler, Seigneur, afin que les gens puissent savoir que je leur ai dit la vérité? Accorde-le, ô Dieu. Je le demande au nom de Jésus, cette fois encore. Amen. J'aimerais tout juste signaler ici que frère Branham est en train de prier, et il implore presque Dieu de montrer une fois de plus sa présence aux gens d'une manière qui confirmerait ce qu'il leur avait parlé pendant les 5 messages passés. Il a dit, Père divin, je crois que tu es toujours vivant. Maintenant les unitaires prendraient cela et couraient avec ça pour dire, voyez, le Jésus qui est mort est le Jésus qui a été ressuscité et maintenant, il est toujours vivant, et Néhémie ne savent tout simplement pas de quoi il parle. Dieu Néhémie peut pas mourir. Paul a appelé le seul qui est immortel, le roi éternel invisible. 1 Timothée 1:17 au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous avons étudié ce roi invisible qui établit son royaume invisible. Mais ce soir je veux étudier cet aspect immortel de Dieu. Paul mentionne encore cet aspect de l'immortalité de Dieu à Timothée dans la même lettre. Au chapitre 6. 1 Timothée 6:15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des Seigneurs, c'est ce qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni Néhémie peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Paul parle de Dieu comme étant le seul souverain. Le mot utilisé pour « seul » est le mot grec « mono » qui veut dire le seul, ou l'unique du genre. Là, il n'y a pas un autre de ce genre. Et il l'appelle le seul souverain ou potentat, lequel mot qui signifie l'autorité. Maintenant, nous savons que Dieu Esther la parole. Esther Saint Jean 1, 1 au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, le mot immortel utilisé au chapitre 6 Esther un mot différent que celui utilisé au chapitre 1. Le mot Esther Athanasia et il veut dire éternel ou interminable, par rapport à Phtarto, qui veut dire impérissable. 1. Corruptible dans le sens que sa Néhémie peut pas être détruit ou Néhémie peut pas être terminé par tous les moyens à l'extérieur ou par soi-même. Impérissable. Ainsi, un mot parle de la vie sans commencement ou sans fin et l'autre parle du pouvoir pour maintenir cette condition impérissable. Par conséquent, Paul parle du pouvoir d'une vie sans fin comme quelqu'un qui Néhémie peut le séparer de cette vie qu'il a reçue. Et il se réfère spécifiquement au Fils de Dieu qui a été fait selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux 7h15 Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. C'est institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. 17 Car ce témoignage lui est-il rendu, tu es un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et il parle aussi de nous qui recevons cette vie dans nos êtres mêmes, laquelle est éternelle en nature. En cela c'est la vie même de Dieu et elle est à la fois sans commencement et sans fin. Et elle est impérissable dans ce sens qu'elle n'est mis, peut jamais être détruite par quoi que ce soit. Par conséquent, ce n'est pas seulement la nature de vie qui était dans le Père, mais aussi le pouvoir de conserver cette même vie et cette nature. Remarquez comment les deux mots, Athanasia qui signifie la vie sans fin ni commencement est utilisé et Aptarto qui a un rapport avec une puissance pour conserver cette vie dans une nature impérissable et ces deux mots sont utilisés en référence à la vie que nous recevons à travers la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 15h53 Car il faut que ce corps corruptible, phtarto, revête l'incorruptibilité, aphtartro, et que ce corps mortel, nto, revête l'immortalité, athanasia. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 55 Ô mort, où est-ce ta victoire? Ô mort, où est-ce ton aiguillon? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur, Jésus-Christ. 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est sera pas vain dans le Seigneur. Dans Romains 2, 7 Paul nous fait imprégner encore de cette condition d'immortalité que nous recevons, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais ce qui est intéressant au sujet de ce passage, c'est que Paul ne donne pas simplement la fin ou le résultat des élus. Il parle aussi de ceux qui ne sont pas dans l'élection. Il met en contraste le résultat des élus comme étant la vie donnée qui est immortelle et pleine d'honneur et de gloire, pendant qu'il parle aussi de ceux qui s'opposeront à celle-ci en finissant avec un autre résultat qui n'est pas si bon. Romains 2, 1 Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Il nous laisse savoir qu'il y a une nature préjudiciable dans ceux qui condamnent. Il dit que dans leur venue au jugement, ils finissent en fait par se condamner eux-mêmes. N'était-ce pas les pharisiens qui avaient dit que Jésus avait un démon? N'était-ce pas les religieux qui avaient condamné que Jésus avait un mauvais esprit? N'était-ce pas les pharisiens et les sadducéens qui avaient condamné Jésus à mort? N'est-ce pas Paul dit qu'ils finiront par se condamner eux-mêmes? Il continue en disant, « De nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est sévère selon la vérité. » 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Néhémie, reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres? 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 9. Tribulation et angoisse sur tout âme d'homme qui fait le mal à qui? Sur le juif premièrement, puis sur le grec. 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. 11. Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Paul dit, écoutez, vous êtes les types qui méprisez la bonté et la richesse de la parole de Dieu, et ainsi il n'y a rien qui reste si ce n'est taire la mort et la destruction. Aucune immortalité pour vous. Aucune incorruptibilité pour vous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est taire sa vie. Et quand vous recevez cette parole dans votre être mortel, elle produit l'immortalité. Quand votre être corruptible se nourrit de la parole éternelle de Dieu, la vie de Dieu dans cette parole de Dieu produit un état incorruptible dans votre être. Mais, quels sont ceux qui condamneraient les richesses et la bonté de Dieu? Comment peuvent-ils recevoir la récompense de Dieu? Dieu a envoyé un prophète avec la richesse et la bonté et cela a été ridiculisé et on a craché dessus, tout juste comme ils ont fait à son fils unique. Ils l'ont appelé un démon, ils l'ont appelé Belzébul, ils ont dit qu'il était possédé d'un démon, et ils ont proféré chaque mauvaise parole contre lui pour crucifier son influence qu'il devait avoir sur les fils de Dieu. Et ainsi, ils ont encore fait la même chose. Ils l'ont fait à frère Branham et maintenant ils le font à ceux qui resteraient avec frère Branham et qui enseignent la même doctrine qu'il a enseignée. Aujourd'hui, les hommes se sont infiltrés dans le message et prétendent prêcher le message, mais ils enseignent en fait les doctrines des Jésus seuls ou unitaires qu'ils épousent. Et alors ils donnent à la doctrine de William Branham la même sorte de nom qu'ils ont appelé Jésus. C'est réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 9. Tribulation et angoisse sur tout âme d'homme qui fait le mal à qui? Sur le juif premièrement, puis sur le grec. 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. 11. Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Maintenant, je n'ai pas demandé que cet homme dise ces mauvaises choses. En fait, la fois dernière, je l'ai vu et je pensais que nous étions en bon terme et qu'on se parlait normalement. Mais néanmoins, ce n'est pas moi ni frère Vell qui circulons pour appeler les gens des démons. Mais nous avons certainement notre part d'être appelés cela. Est-ce que je me soucie de ça? Pas vraiment. Jésus a dit que cela arriverait. Matthieu 5:10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est terre à eux. 11. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal acquis à cause de moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 22 Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. 23 Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Et quelles sont ces bénédictions? De quelle récompense parlons-nous? C'est réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est là le vrai attribut, la vie éternelle qui est immortelle et incorruptible. Écoutez, Dieu est le seul immortel et incorruptible, et si nous n'aimons, recevons pas la vie, Dieu, alors nous n'avons aucun espoir du tout. La vie 02.06-57-18 maintenant. Nous nous demandons alors que le mot vie doit avoir une signification composée à ça, doit signifier plus qu'une chose. La vie en soi veut dire une existence. Ainsi donc, si ta gentillesse est mieux que la vie, alors qu'est-ce ce qui pourrait être plus mieux? Parce que Dieu seul a la vie éternelle. Dieu seul a la vie éternelle. Si nous pouvons aller droit maintenant, ce sera facile pour nous de voir la grande image que Dieu dresse devant nous. Comme ce jour-là, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra, périra et s'en ira. Maintenant, tout ce qui a eu un commencement a une fin. Il n'y a rien qui a jamais commencé et qui n'a pas de fin. Mais tout ce qui n'a pas eu de commencement n'a aucune fin. Et Dieu seul est l'unique qui n'a jamais eu un commencement. Il n'avait ni commencement de jour ni fin d'année. Et par conséquent, nous devons devenir une partie de Dieu par naissance pour vivre, pour avoir une existence éternelle. Hébreux chapitre 6 et 7, 15.09-57m 270-634 Melchizedek était le roi de Salem qui Esther le roi de Jérusalem, le roi de paix, lequel n'avait ni père ni mère, ni commencement des jours ni fin de vie. Jésus a eu les deux, un père et une mère, et un commencement de jour et une fin de vie. Mais il a été fait selon l'ordre de Melchizedek, qui n'avait ni commencement de jour ni fin de vie. Melchizedek était Dieu lui-même. Melchizedek était Jéhovah Dieu, le même qui rencontra Abraham les années plus tard devant sa tente, avait son dos tourné à lui. Il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Car sur les Hébreux par 2, 57-1002, 273-388. Maintenant, remarquez, nous découvrons cela, qui était Melchizedek si ce n'était Dieu lui-même. Il n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre, car il était le roi de Salem qui est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Il n'aimait pouvait pas être Jésus, parce que Jésus a un père et une mère. Melchizedek n'avait ni commencement des jours ni fin de vie. Il n'y a qu'un seul qui a cela. C'est Dieu. C'était Dieu demeurant dans une théophanie. Voyez? Le procès 64-04-9-74 Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, quand le Fils d'homme sera révélé. Au jour de Sodome était le Fils, c'était Dieu révélé dans chair humaine, lequel fut appelé une fois Melchizedek, le Père. Melchizedek à ce temps-là n'avait ni père, ni mère, ni commencement des jours, ni fin de vie. Quel que soit qu'il était, il reste le même. Jésus a un père et une mère, mais cet homme n'avait ni père ni mère. Et il est apparu à Abraham sous la forme d'un fils de l'homme, Elohim, Jéhovah. Maintenant, Remarquez ensuite qu'il y a une différence entre Dieu et son Fils. Dans ce sens que Dieu est immortel et son Fils Néhémie l'était pas, jusqu'à ce que Dieu ait fait de lui immortel en le ressuscitant de la mort. Acte 2h22 Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2h31 s'astère la résurrection du Christ, qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'une Néhémie serait pas abandonnée dans le séjour des morts et que sa chère Néhémie verrait pas la corruption. 32 s'astère ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. 33 élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 34 car David n'espère point monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. 35 jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 3h26 Esther, à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte 4h10 Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Si Esther parle du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, si Esther parle à lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Acte 5h30 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. 32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 10h38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 39 Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué. En le pendant au bois. 40 Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût. Acte 13h30 Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Acte 13h33 Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui Esther écrit dans le psaume 2e, Tu es Aïe mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Acte 13h37 Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Romains 4h24 S'Esther encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur. Romains 6, 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ Esther ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 8h10 Si Christ Esther en vous, le corps, il Esther vrai, Esther mort à cause du péché, mais l'esprit Esther vit à cause de la justice. 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 1 Corinthiens 6h14 Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. 1 Corinthiens 15h14 Et si Christ n'est pas ressuscité, Notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Car il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis que Néhémie l'aurait pas ressuscité, si les morts Néhémie ressuscite point. 2 Corinthiens 4h14 Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. 1 Pierre 3h18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.